France Culture.
Bonjour le Book Club. Ma première rencontre avec Mrs. Dalloway, ça a été une expérience de désorientation totale. J'avais décidé de lire le livre en anglais et je me suis complètement perdu. Je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait et pourtant, j'ai eu l'impression de rencontrer quelque chose de magnifique sans savoir pourquoi.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un livre culte aujourd'hui dans votre book club et qui, pour fêter joyeusement ses 100 ans, s'offre une parution dans la collection Pléiade Gallimard. C'est en 1925 que Virginia Woolf fait publier l'un de ses ouvrages majeurs, Mrs. Dalloway. La Première Guerre mondiale est terminée, mais elle est encore proche et dans les esprits. Une femme de la haute société londonienne prépare pendant une journée la réception qu'elle donnera le soir. Les heures qui la séparent du dîner sont ponctuées de souvenirs, d'interrogations, de réminiscences qui profitent notamment du passage en ville d'un ancien amour. Nathalie Léger et Gilles Philippe sont nos invités pour évoquer ce grand livre. Vers 15h50, comme chaque lundi, lecture d'actu. En ce moment, c'est Clémentine Mélois qui se prête à l'exercice. Aujourd'hui, elle décide, en écoutant parler Donald Trump, de relire l'essai que Victor Klemperer consacra à la langue du Troisième Reich. Et enfin, nous jouons avec vous au grand jeu des pages musicales parce qu'il y a des chansons dans la vie comme dans les livres. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Bonjour Nathalie Léger.
Bonjour.
Vous êtes romancière, vous dirigez ce lieu magique qu'est l'IMEC, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Vous êtes une lectrice fervente de Virginia Woolf. Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer Mrs. Dalloway. Bonjour Gilles Philippe.
Bonjour.
Vous êtes universitaire, vous êtes critique littéraire, vous êtes linguiste. Vous travaillez notamment sur la littérature du 19e et du 20e siècle. Vous signez la préface de cette fameuse édition Pléiade de Mrs. Dalloway et autres récits de Virginia Woolf. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer ce grand texte. Ici, on commence toujours par un portrait de nos invités en tant que lectrice, en tant que lecteur. Donc, c'est en cette qualité-là que vous êtes là, des lecteurs et lectrices experts. On ne va pas faire votre portrait singulier, voilà, vous reviendrez. On va juste noter au passage qu'on travaille aujourd'hui sur la traduction de Marie-Claire Pasqui, puisque c'est la traduction qui a été choisie pour la Pléiade, mais qu'il existe, par exemple, en édition poche POL, une autre traduction de Nathalie Azoulay. 100 ans, c'est un anniversaire, c'est donc aussi un très joli prétexte pour faire une émission, pour faire une édition Pléiade. Mais c'est un temps intéressant aussi dans l'histoire littéraire pour voir comment chemine un texte, pour peut-être le relire, le réenvisager. Qu'est-ce que ça nous permet, cette distance temporelle, Gilles Philippe ?
Ça nous permet d'abord de comprendre que c'est ou de nous souvenir que c'est un texte des années 20. L'année précédente a paru La Montagne Magique, qui est un des grands romans sur le temps en Europe. L'année suivante va paraître Un Personne et 100 000 de Pirandello, qui est un grand roman sur la personnalité. Sommes-nous toujours nous-mêmes ? Nous dispersons-nous dans des images, dans des miroitements ? Toutes thématiques qui sont très présentes dans le texte. Et puis, on est à une époque où...
Qu'elle aurait lu ? Vous dites ça parce qu'elle
aurait... Non, elle n'a lu ni l'un ni l'autre. Okay. Hein, le Pirandello, je ne crois pas qu'elle l'ait lu. C'était de toute façon après Mrs. Dalloway, parce qu'on est en 26. En revanche, elle a lu quelqu'un qui continue à paraître. C'est bien sûr Proust, puisque La Recherche du Temps Perdu est en cours de parution. Elle n'a pas été jusqu'au Temps Retrouvé, qui ne va paraître que quelques années plus tard. Mais voilà, 100 ans après, on mesure... à la fois la relativité de cette œuvre parmi les thématiques et les grands soucis des années 20, qui vont être si différents des grands soucis, des grandes thématiques des années 30, et puis aussi la façon dont, dans une certaine mesure, elle domine cette époque par l'ampleur de sa vision. Bien sûr, je ne compare pas à Proust, mais aussi par la beauté, le souci de la langue qui se manifeste et qu'on ne trouve pas à part égale chez Mann ou chez Pirandello, par exemple.
Il y a quelque chose aussi quand vous dites 1925 qu'il faut raconter, c'est où est-ce qu'on en est dans l'œuvre et dans la vie de Virginia Woolf ? Qu'a-t-elle écrit avant ? Que va-t-elle écrire après ? Et qu'est-ce que c'est ce moment Mrs. Dalloway pour elle ?
Voilà, c'est son quatrième roman. Elle a fait paraître d'abord deux romans à la fin des années 10, en 15 et en 19, qui sont oubliés aujourd'hui, je vais le dire justement oubliés. Un premier roman en 15 dont le titre français varie, c'est The Voyage Out en anglais, qu'on appelle parfois La Traversée des Apparences, je crois que ça s'appelle Traversée dans la Pléiade des œuvres romanesques de Woolf. Et puis un autre roman qui s'appelle Nuit et Jour, qui là aussi sont des romans qui où le décrochement ne s'est pas fait envers ce qu'on va appeler le modernisme de Woolf, ce côté éclaté à la fois de la narration et puis des perspectives sur le monde et sur les personnages. Et puis paraît en 22 un livre majeur, hein, qui est La Chambre de Jacob, sans doute un livre trop peu connu de Virginia Woolf, un livre qui est un peu construit autour de la figure de son frère qui est mort à la guerre, mais un livre où on sent déjà vraiment beaucoup de choses qui vont apparaître dans Mrs. Dalloway, notamment le fait d'avoir sur une même chose, ce qu'on appelle parfois le côté cubiste de Woolf, des perspectives différentes. Ce qu'on va retrouver par exemple au tout début de Mrs. Dalloway dans ce parcours de Londres, un même bruit ou une même vision est envisagée avec différents personnages. Et puis il y aura un autre roman très important en 27, c'est bien sûr Vers le phare, qu'on appelle parfois aussi La promenade au phare. Parfois le roman préféré des gens qui lisent Woolf.
C'est mon cas, mais j'ai pas lu tout Woolf, mais c'est vrai que c'est un de mes romans préférés.
Ouais. Ah, moi, je préfère Mrs. Dalloway, mais bon, j'adore.
Mais je découvre Mrs. Dalloway, du coup, je vais peut-être devoir renoncer à Vers le phare pour Mrs. Dalloway, parce que vraiment, j'ai été éblouie par cette lecture.
On n'a pas à choisir, on a les deux, mais pas dans ce petit volume de la Peignade, où on a le suivant, on a Orlando, qui est un texte vraiment magique, mais plus difficile, très différent, qu'on peut relier à... un essai qui est aussi dans la Pléiade, qui est une pièce à soi, donc une réflexion aussi sur le genre. Et aujourd'hui, 100 ans après, on a tendance à, et à raison, à considérer que cette question du genre, qui est un peu en filigrane dans Mrs. Dalloway, est très présente à partir de Orlando, Une chambre à soi. Puis ensuite, il y a un autre chef-d'œuvre, on ne va pas parler de tout, mais se sont mis sur les vagues. Texte beaucoup plus expérimental, plus difficile, on est en 31. Et le reste de l'œuvre, ensuite, s'éparpille et va parfois paraître de façon posthume, où il y a les années, etc. Mais ce sont des œuvres qui sont moins importantes que les quatre qu'on a citées.
Mais donc, Mrs. Dalloway, c'est une sorte de pivot dans l'œuvre de Woolf ? C'est-à-dire que vous dites, en gros, il y a deux livres assez justement oubliés ?
Non, je pense que le pivot serait La chambre de Jacob.
La chambre de Jacob.
On est en 22, mais le chef-d'œuvre, c'est Mrs. Dalloway.
Et voilà. La chambre de Jacob, pourquoi, rapidement, ça me rend curieuse, pourquoi est-ce que c'est oublié ? Ou assez peu connu ?
À cause de Mrs. Dalloway, parce que Mrs. Dalloway... porte à sa perfection des choses qui sont tentées dans La chambre de Jacob.
Mais on a d'un point de vue de la construction,
oui,
du style.
Oui, de la construction, et puis du travail sur la psychologie qui va beaucoup plus loin, puis de tout le travail sur le discours indirect libre ici, toute la psychologie, tout le travail du flux de conscience qui est beaucoup plus approfondi. Puis il y a aussi une profondeur dans les thématiques, tout simplement, le temps, la vieillesse, ce qu'est être heureux, pourquoi nous sommes là. Le livre est parfait, il y a le contrepoint entre deux personnages. Le dernier jour de l'un, dont on parlera peut-être tout à l'heure, le grand jour de l'autre, Mrs. Dalloway, qui pendant une journée va préparer sa grande fête. C'est dommage qu'on ait un peu oublié La chambre de Jacob, mais...
Ça nous encourage à programmer une future émission sur La chambre de
Jacob. Quand on aura lu 10 fois Mrs. Dalloway, on aura envie de lire un peu autre chose, et on peut lire La chambre de Jacob, qui est vraiment un très très beau livre.
Nathalie Léger, est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous lisez Mrs. Dalloway de Virginia Woolf ?
Alors, oui, je me souviens en tout cas d'un éblouissement. Le contexte...
C'est à quel moment dans votre parcours
J'avais... au fond, c'est lié à la question de la lumière. Parce que c'est ça qui m'a frappée tout de suite. C'est cette espèce de scintillement qu'il y a partout, dans la syntaxe, dans le... Enfin, partout, jusque dans la syntaxe. Et j'étais, puisque vous m'interrogez sur le moment... j'étais dans une école de théâtre et j'y faisais avec passion de la lumière. Ça veut dire passer son temps à regarder tout. Et il est question de ça dans Mrs. Dalloway sans cesse. Voilà, je tombe sur ce texte, ça je ne sais plus comment. Je n'y comprends rien, moi non plus. Comme
l'auditeur qu'on entendra tout à l'heure, Benoît, oui.
Je n'y comprends rien, mais peu importe. Et je m'y confie, mais alors avec une... J'ai eu l'impression d'une reconnaissance. Au fond, c'est ça les grands livres. Dalloway n'est pas le seul, mais il y a quelque chose de marquant. Puis la rencontre aussi avec une femme, comme j'avais lu Nathalie Sarraute, mais quand j'avais 16 ans, simplement parce qu'elle s'appelait Nathalie. Donc on ne sait pas, on ne connaît pas les chemins qui vous mènent à...
Mais... Et la reconnaissance, sans entrer trop dans le détail, parce qu'on va ensuite entrer dans le détail du texte, mais vous sauriez dire sur quel point saillant, Nathalie Léger ?
C'est étrange, parce que ça n'était pas avec le... personnage elle-même, qui m'apparaissait vraiment comme une femme mûre. Enfin, je ne crois pas m'être identifiée à Mrs. Dalloway, mais m'être totalement, je crois que c'est possible, identifiée au mouvement de la phrase, à sa fluidité, à la manière dont elle fait teinter les choses, enfin, à tout ce dont on va sans doute parler. Et ça a été, c'est ça qui emporte, alors même qu'on croit ne pas comprendre.
Et vous l'avez lu en français ou en anglais ?
Oh, en français, oui, en français. J'aurais plaisir, mais un petit peu de difficulté. Ce qu'on aime dans une lecture, c'est abandonner toute réserve. Et la langue, quand même, crée des contraintes et des... Donc, quelle que soit la traduction, je m'abandonne au texte français.
L'avez-vous relu?
Oh, peut-être tous les 4 ou 5 ans, oui. Donc, ça commence.
Qu'est-ce qui vous fait dire, tiens, je vais relire Mrs. Dalloway?
L'envie de retrouver... Alors, au fond, ça change. Parfois, c'est... L'envie de retrouver, et j'ai retrouvé dans ma vieille édition d'ailleurs, ces marques-là, les moments où elle fait pivoter le récit. Parce que c'est, elle le fait avec un art consommé.
Quand vous dites pivoter, c'est-à-dire passer personnage à l'autre, d'un espace à l'autre, d'une temporalité à l'autre.
Comment est-ce qu'elle passe? Elle jette une poignée de personnages dans Londres. Mmh. Comment est-ce qu'elle fait pour changer de point de vue? Un même événement et soudainement le point de vue sur l'événement change puisqu'elle passe de Peter Walsh à Clarissa Dalloway à Warren Smith, enfin Septimus.
Oui, c'est vrai, vous avez fait un geste, mais en effet, je cherchais exactement la machine à laquelle ça me faisait penser avec beaucoup plus de charme, de délicatesse, de beauté, etc., mais à un drone. Vous voyez les drones, comme s'il y avait une espèce de drone, mais drone de la psyché humaine, quoi. C'est vraiment une sorte de circulation hyper fluide sur la ville et dans les êtres.
Roman cartographié.
Ouais.
Et vous parlez de drones. Tout au long, on est surplombé. Ça, c'est sa grande force, par une immense vibration. Tout le récit est surplombé par cette vibration. C'est Big Ben, c'est l'avion qui passe. Et je réagis, pardon, parce que moi, longtemps, j'ai pensé que ça n'était pas un avion, mais un... Comment est-ce qu'on appelle ça? Un aéronef, c'est-à-dire une sorte de présence au-dessus de la ville dont la puissance vibratoire relance chaque fois l'intériorité de chaque personnage, au fond.
Est-ce que vous vous souvenez, Gilles Philippe, de votre première lecture de Mrs. Dalloway?
Hélas, oui, j'ai envie de dire, c'est plutôt un souvenir de bon élève. Quand j'étais adolescent, j'avais fait une liste des livres que je devais avoir lus. Je me souviens qu'il y en avait 3.
Érigée pour quoi et par qui?
Par moi-même.
Par vous-même. C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, ouais. Ça rachète un petit peu. Je me souviens qu'il y avait Ulysse de Joyce, Le bruit et la fureur de Faulkner et Mrs. Dalloway. Je les avais aimés tous les trois, mais oui, d'intelligence.
Quel âge vous avez?
C'est devait l'été entre la première et la terminale. On a 17 ans, c'est ça?
Et vous faites les trois cet été-là?
Ouais, je fais les trois cet été-là. Et puis, mais j'ai aimé les trois, comme on peut aimer quand on est adolescent et qu'on aime la littérature. Mais un seul m'avait vraiment bouleversé, c'est Mrs. Dalloway. Je n'ai jamais cessé de le relire, mais après, j'ai pu lire en anglais. Donc, j'ai beaucoup lu le texte en anglais. J'ai un peu redécouvert récemment dans des traductions. Et j'ai une pratique de la relecture qui doit être aussi la vôtre, Nathalie. C'est-à-dire qu'en fait, quand on aime un livre, au bout de plusieurs fois, on le relit pas du début à la fin, mais on cherche des passages.
Vous cherchez?
On invite des extraits, des passages, des moments qu'on aime et qu'on aime, où on se dit, c'est à quel endroit qu'on a cette phrase, et ce genre de choses.
Ce matin, j'ai fait l'expérience, il y a des trucs que j'ai retrouvés, il y a des trucs que j'ai pas du tout retrouvés.
Mais, non, c'est pas bien, parce qu'on le regarde pas. Ouais. En plus, on les relit pas dans l'ordre. Après, on a une vision complètement éclatée, on ne sait même plus très bien comment ça se passe dans ce qui ne dure qu'une journée, puisque le roman est sur une journée. Mais voilà. Puis après, j'ai encore plus honte à le dire, je l'ai lu comme de très près, parce que j'étais joué d'agrégation, et que cette année-là, il y avait Mrs. Dalloway au programme de littérature comparée, et j'étais co-interrogateur sur Mrs. Dalloway.
Mais c'est
là,
beau cette expérience-là. Là, du coup, vous avez eu en dialogue avec des jeunes prétendants à l'agrég, et vous avez discuté de ce texte-là. Ouais. Ça devait être aussi une belle expérience.
Alors, bien sûr, j'étais toujours déçu parce qu'ils disaient, j'ai des amis, ils ne voient pas ceci, ils ne voient pas cela.
Mais j'espère que vous avez aussi été étonné, joyeusement étonné parfois.
J'ai eu des illuminations, parce que bien sûr, souvent, on s'est dit, mais j'ai même pas remarqué ça.
J'adore.
Mais voilà, c'est un rapport un peu éclaté au texte, comme on peut l'avoir, parce que je ne suis plus si jeune quand on l'a lu sur plusieurs décennies.
Par ailleurs, vous signez aussi une préface, donc vous en avez une lecture savante, articulée, où vous devez produire théoriquement quelque chose.
J'ai lu un peu la bibliographie autour, donc ce sont des lectures à chaque fois différentes du même texte.
Et du coup, est-ce que ça modifie votre réception, ou est-ce que on va dire, l'éblouissement originel de l'été de vos 16-17 ans est encore possible après tout ce savoir accumulé sur M. Dalloway?
Non, c'est encore possible. Ouais. C'est aussi la cause. C'est pour ça que j'adore La Chambre de Jacob, mais pour moi, c'est pas un texte qui a la même puissance, etc. Souvent, quand on relit avec l'accompagnement critique, comme on peut le faire, parce que quand on prépare une préface, on regarde un peu ce qui a été dit sur le texte, on est surtout sensible au point de désaccord. C'est un peu comme avec les étudiants de tout à l'heure que j'évoquais, à savoir, on a envie de se dire, mais non, il n'a pas vu ça ou elle n'a pas vu ça. Et là aussi, souvent, je ne me reconnais pas dans les lectures qui sont faites du texte. Mais c'est très bien.
Mais c'est bon signe, moi, je trouve.
Oui, c'est bon signe, bien sûr, à la fois pour le texte et puis pour soi-même.
Ouais. On va continuer d'évoquer ensemble ce grand texte de Virginia Woolf, juste après cette chanson d'un groupe qui s'appelle Oslo Twins. La chanson, elle, s'appelle Sally. Directement inspirée par le roman Mrs. Dalloway, la chanteuse raconte comment elle a été touchée par la façon qu'a Virginia Woolf d'écrire les soudaines prises de conscience du temps qui passe. T'es comme ça en train de boire un verre avec des convives que tu connais depuis des années et d'un seul coup une puissante mélancolie te saisit. Le groupe est en concert, pour ceux que ça intéresse, le 14 mars prochain à Paris, au Super Sonic Club.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Dans les yeux des gens, dans leur démarche chaloupée, martelée ou traînante, dans le tumulte et le vacarme, les attelages, les automobiles, les omnibus, les camions, les hommes sandwich qui se frettent un chemin en tanguant, les fanfares, les orgues de barbarie, dans le triomphe et la petite musique et le drôle de bourdonnement là-haut d'un avion, dans tout cela se trouvait ce qu'elle aimait, la vie. Londres, ce moment de juin, car c'était la mi-juin, la guerre était finie. Roman culte aujourd'hui dans votre book club Mrs. Dalloway de Virginia Woolf qui s'ouvre sur ce soleil de juin, le soleil d'une journée entière que Clarissa Dalloway débute en allant elle-même acheter les fleurs. Elle donne réception ce soir. La proximité de la guerre, de la mort et de la folie, l'attention absolue donnée à l'instant et à la lumière, le ressac des souvenirs et des amours passés font de cette journée un espace temporel extrêmement élastique et par là même absolument fascinant. Nous parlons de ce texte avec vous deux, Gilles Philippe et Nathalie Léger. Je dis avec un sourire qu'elle va s'occuper elle-même des fleurs. Je vais chercher la traduction de cette première phrase, peut-être pour parler de la manière dont elle détonne avec les phrases ensuite. J'y viens. Mrs. Dalloway dit qu'elle se chargerait d'acheter les fleurs. Pourquoi est-ce que cette phrase-là nous renseigne à la fois sur ce qui va suivre et pas du tout sur la musique qui va suivre, Gilles Philippe? Nathalie Léger, comme vous voulez.
Si on pense à la première phrase, dans la recherche du temps perdu, longtemps je me suis couché de bonheur, ouais. Ça n'annonce guère la
Absolument.
Musique de la suite.
Ouais.
Il est de bons conseils, de bonnes pratiques de commencer un roman par une phrase brève, idéalement aussi même un chapitre par une phrase brève, plutôt que de se lancer dans une sorte de période inaugurale qui décourage le lecteur. Mais c'est vrai qu'au-delà de ce simple truc technique qu'ont respecté la plupart des écrivains, ou que beaucoup d'écrivains ont respecté, qu'il y a même enseigné, je crois, maintenant, il y a aussi cette...
Vous m'apprenez. Non, c'est vrai. Je ne savais pas qu'on pouvait à ce point dire les choses comme ça, comme étant une règle. Mais...
Hélas, hélas. Oui, tout est réglé.
Ouais, en même temps, pourquoi pas.
Au-delà de ça, c'est une phrase à laquelle elle tenait beaucoup, et la preuve en est qu'elle l'a... C'est une variation, en fait, sur une phrase qu'elle fait paraître l'année précédente. Si vous avez lu les annexes de notre texte, dans une nouvelle qui s'appelle Mrs. Bond Dalloway, Street, oui. Voilà, dans Bond Street, qui commence par presque la même phrase. Hein. Mrs. Dalloway dit qu'elle irait acheter les gants elle-même. Et effectivement, elle va acheter les gants. On va retrouver des bribes de choses qu'on va retrouver dans le premier chapitre, enfin dans le début de Mrs. Dalloway. Par ailleurs, il y a une contractualisation qui est forte ici. C'est une sorte de pacte de simplicité aussi. Hein. On commence par de l'anodin. Mm. Voilà. Et c'est vraiment une chose qui est importante chez Woolf et que je reproche beaucoup de choses à tout le monde. Vous avez compris. Que je reproche un peu aux traductions, c'est qu'on surtraduit un peu Woolf. Souvent, la langue de Woolf est plus simple que celle des traductions. Et c'est une habitude là française aussi de littérariser un petit peu les textes. Alors c'est pas le cas pour cette première phrase, hein, qui est magnifiquement traduite dans son absolue simplicité, mais c'est vrai que il faut commencer dans l'anodin. Voilà,
Mrs. Dalloway dit qu'elle se chargerait d'acheter les fleurs. Donc il y a à la fois cet anodin, ce conseil bien suivi de la phrase courte, Gilles Philippe.
En même temps, c'est se chargerait, alors qu'en anglais, c'est Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself. Donc elle dit qu'elle va acheter. On voit bien qu'il y a toujours ce petit décalage que les traducteurs ou les traductrices françaises ont aimé par rapport à un texte qui, à mon avis, est toujours un peu plus sobre et plus simple.
Et alors, en quoi ça n'annonce pas la musique qui suivra, Nathalie Léger?
Au fond, d'abord, il y a une chose qui est très, je crois, qui marque dès l'entrée, c'est qu'on est au milieu des choses. C'est-à-dire que, quels que soient les effets de traduction, je crois que Virginia Woolf, dans sa très grande simplicité, c'est quand même ça qu'elle veut dire. On est au milieu d'un mouvement. Et le livre...
Il y a des trucs à faire.
Voilà, beaucoup a été fait, beaucoup est en train de se faire, la question de ce qui est en train d'advenir, et puis il y a cette temporalité étrange. Donc, voilà, on est au milieu des choses, et le livre s'ouvre sur l'élan d'une femme qui sort. Il y a une sorte comme ça de détermination, de grand mouvement, et ça lance le récit. Et ça, c'est, je crois que dans cette simple phrase, courte en effet, prometteuse de ce qui dit quelque chose, qui est dans l'écho de ce qui a eu lieu et qui promet ce qui va arriver.
Je m'attarde sur sa brièveté parce que d'autres phrases pourront faire une page et demie sans problème, avec des incises, avec des points virgules, avec des parenthèses. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette rythmique-là, Gilles Philippe?
Il y a chez Woolf une sorte d'amour pour la liste, en fait. Alors il y a une grande variété. Il y a pas une phrase woolfienne typique comme on pourrait considérer qu'il y a une phrase proustienne typique ou une phrase flaubertienne typique. Hein. Donc on a une grande variété de choses. Ça bouge beaucoup dans le texte, mais il y a une volonté de rendre compte de l'épaisseur du réel. Et pour cela, il faut souvent multiplier. Les nominations, multiplier les objets, multiplier les impressions. Il y a ce côté liste qu'ont certaines pages qui les rendent effectivement très frappantes. Mais il y a une sorte de jeu d'accordéon de la phrase qui peut être brève et longue. Il n'y a pas une sorte de phrase woolfienne, comme on pourrait le dire pour d'autres auteurs. Et la première phrase, elle est détachée en plus. Hein, oui. Donc on va passer à la ligne juste après.
Il y a vraiment
une sorte d'effet d'amorce là, qui est vraiment intéressant. Et on voit bien qu'il y a un calcul aussi typographique, comme vous le disiez, pour la ponctuation et pour la mise en paragraphe, etc.
Qu'elle fait en conscience, parce que ce qu'on n'a pas dit, si vous l'avez dit, parce que vous avez signifié qu'elle était autrice de cet essai, mais elle le fait en conscience, en maîtrise aussi de ce qu'elle pense, de ce qu'elle sait de la littérature, de ce qu'elle peut théoriser de la littérature. Elle est aussi à cet endroit-là de son parcours, Virginia Woolf, en 1925.
Absolument, elle a déjà fait paraître beaucoup, beaucoup d'essais sur la littérature. Elle regrette qu'il y ait si peu d'attention aux formes dans la littérature anglaise. Son grand modèle, c'est la littérature française. On est si sensible, d'après elle. Hein. On serait si sensible. Et notamment à la ponctuation, dit-elle. Et son mari Lane dit la même chose aussi. Il y a un déficit d'attention aux formes en Angleterre. Et elle en cherche une garantie de l'autre côté de la Manche, où, pense-t-elle, on est beaucoup plus soigneux, où on a de grands modèles, dont Flaubert, évidemment, est le maître absolu de la nécessité, quand on fait de l'écriture, d'avoir le même soin pour l'écriture qu'un peintre peut avoir pour... Voilà, on écrit... Et, en tout cas, oui, elle le fait en pleine conscience. Elle écrit parallèlement, puisqu'elle écrivait un peu le matin, la fiction, l'après-midi, des essais. La plupart de ses essais étaient littéraires. Oui, il y a une pleine conscience. C'est pas du tout une écrivaine qui écrit dans son coin sans avoir rien lu ou sans avoir réfléchi à la littérature. Le geste d'écriture est très, vraiment accompagné par le geste de réflexion littéraire.
Alors, on parle de la musicalité de cette phrase-là. Vous avez évoqué tout à l'heure la lumière, Nathalie Léger, mais aussi les sons. Pendant toute cette déambulation londonienne, quels que soient les personnages avec lesquels nous serons, nous sommes avec les bruits de la ville, nous sommes avec la lumière de la ville, il y a Big Ben, il y a le bourdonnement de l'avion. Est-ce qu'on peut dire quelque chose de l'écriture très sensitive, en tout cas enfin, de la sensation qu'on a et de la ville et de la vie des personnages?
C'est certainement aussi ce qu'elle cherche tout autant que la question rythmique. Pour revenir rapidement sur ce que dit Gilles Philippe, c'est vrai qu'elle ne cesse d'écrire, dans son journal par exemple, son attention à la césure, à la rythmique. Et je dois dire que moi, une des phrases qui m'a le plus accompagnée de Virginia Woolf, c'est « J'écris non pas selon une intrigue, mais selon une rythmique ». Donc c'est ça qui l'apporte. Et Mrs. Dalloway en est un exemple frappant. Les vagues, évidemment. Un tout autre, hein, et chaque fois. Et là, ce qu'elle cherche, c'est en effet quelque chose qui... Comment est-ce qu'on pourrait dire ce fameux flux de conscience? Eh bien, il prend la forme dans une sorte de composition prismatique. Mais avec Woolf, on a le sentiment que chaque fois, cette recherche de construire un prisme, il se trouve et dans l'architecture du récit, et dans la phrase elle-même, et dans l'agencement de deux mots entre eux.
Il faut préciser ça parce qu'on a dit, vous avez dit multiplier les dimensions. Un peu plus tôt, Gilles Philippe, vous avez dit cubisme. Là, vous parlez de prisme. Qu'est-ce qu'on raconte quand on dit ça de Mrs. Dalloway? C'est-à-dire, c'est quoi? Et moi, je rajoute un mot qui serait kaléidoscopique. Mmh. Ce serait ne jamais rien regarder qu'une seule fois ou d'un seul côté. Ce serait ça, et dans la phrase et dans l'intrigue.
Disons, c'est d'abord... restituer ce qu'elle cherche, hein. C'est restituer une sorte de vision presque rhizomatique des sentiments de ces personnages. C'est ça. Et pour y parvenir, elle multiplie ses points de vue, elle construit un récit qui va restituer ce fourmillement de pensée, de conscience. Et elle va créer une phrase qui permet aussi de le raconter, de dire cette infinie. Je me souviens un moment, Peter Walsh, dans le même moment où elle se souvient d'un souvenir extrêmement douloureux, eh bien, dans le même moment, il est en train de bâiller sur son banc dans Hyde Park.
Peter Walsh étant cet ancien amour, ce fameux amant, l'homme dont elle a frôlé comme ça, avec qui elle a frôlé le mariage et qui revient précisément le jour où elle va donner ce grand dîner auquel il vient.
On a le sentiment, en fait, que tout s'évanouit, tout paraît des sentiments, tout s'évanouit, mais c'est parce qu'il y a un bus qui passe ou qu'un enfant se jette dans les jambes de... et que tout se recompose à nouveau ailleurs, différemment, ou au contraire très insistant et douloureux.
On va retrouver Benoît, notre auditeur, nous parler à la fois de sa lecture de Mrs. Dalloway et nous demander pourquoi il faudrait le relire.
Bonjour le Book Club, et bonjour Gilles Philippe et Nathalie Léger. Ma première rencontre avec Mrs. Dalloway, ça a été une expérience de désorientation totale. Alors l'année suivante, j'ai décidé de relire le livre. Et cette fois-ci, j'ai compris ce qui se passait, qui étaient les personnages, Septimus, Clarissa. Je les ai trouvés émouvants et j'ai décidé de relire le livre l'année suivante. Alors depuis, c'est le livre que j'ai lu le plus souvent, de très loin. C'est devenu mon roman préféré et à chaque lecture, j'ai l'impression de découvrir quelque chose de nouveau, de comprendre un peu plus, de saisir un petit peu plus la poésie de cette journée à Londres qui est à la fois belle et triste. Alors j'avais une question pour vous, Gilles-Philippe et Nathalie Léger. Comment convaincre quelqu'un de lire ce livre qui est pourtant si déroutant? Comment rassurer les gens quant au flot de conscience si connu de Virginia Woolf? Merci pour votre réponse.
Merci à vous, Benoît, pour ce témoignage de lecture et pour la question que vous adressez à Nathalie Léger et Gilles Philippe. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour poursuivre notre conversation et ne pas redire tout ce qu'on a déjà dit sur Mrs. Dalloway? Pourquoi on pourrait donner envie à quiconque nous écoute de filer acheter Mrs. Dalloway dans n'importe quelle édition et de le lire. Nathalie Léger.
Pour la beauté.
Qui est la vérité. C'est ça, hein, qu'elle dit à un moment donné, une fin paragraphe.
En tout cas, enfin, pas toutes les formes, mais voilà, sentir ce qui est là, dessous, et qui est la beauté. Et bien sûr, derrière la terreur, c'est la beauté elle-même.
Gilles Philippe ?
Non, je suis vraiment absolument d'accord. C'est d'abord pour ça qu'il faut lire. Woolf disait que les romanciers ne devraient pas chercher à communiquer, par exemple à raconter une histoire. C'est vrai que l'histoire qu'elle raconte, elle est très mince, hein, même si Benoît faisait allusion à la deuxième histoire du texte, c'est celle de Septimus.
Mais, dont on peut dire ce que c'est.
Oui, ça
donc va. Donc il y a à la fois Mrs. Dalloway qui prépare cette journée, qui fait des courses, qui prépare cette maison et qui se souvient de son passé. Peter Walsh qui est en ville et voilà. Qui revient. Voilà, c'est opportun. Il revient dans tous les sens du terme. Et Septimus.
Septimus qui est un jeune homme qui est revenu traumatisé de la guerre et qui est au bord de la folie. Et qui se promène dans Londres avec sa femme et qui sert un peu de contrepoint à la journée de Mrs. Dalloway. Il va se suicider à la fin. Donc Woolf disait que
ne pas communiquer.
Voilà, mais que ce que nous cherchions dans les livres, et notamment dans les romans, c'était de voir le monde représenté. Nous avons un besoin de représentation, et c'est exactement ce que disait Nathalie, à savoir on voit le monde représenté et on se sent vraiment beaucoup plus concerné par ça, de ce sentiment de l'instant, et puis on est face à ces toutes petites choses qui forment notre quotidien, qu'elles subliment en montrant à la fois la beauté de façon formelle, et puis aussi la façon dont les choses interagissent entre elles, et dont les sensations se mêlent. Je trouve qu'il y a un sentiment on se reconnaît, le livre nous tend un miroir, pas seulement par ses thématiques qui sont les nôtres, la vieillesse, le temps qui passe.
L'amour, quand même.
L'amour.
Le désir.
L'amour, le regret, la nostalgie, la mélancolie, mais aussi simplement nous en tant que corps, en tant que corps percevant.
Mais vous parlez de l'épaisseur du réel, c'est
voilà,
ça
exactement.
Aussi, ça rend
ça, c'est ce qu'elle cherchait à nous donner. Je trouve qu'elle y a parfaitement réussi, donc je serais d'avis de courir si on n'a pas encore lu acheter Miss Dalloway.
Je trouve que c'est intéressant aussi le début du témoignage de Benoît qui dit avoir aimé ça sans comprendre, avoir été désorienté, c'est assez beau quand même, parce que ça veut dire qu'il y a autre chose qui se passe que le seul récit de cette journée. En effet, tout ce dont vous parlez depuis tout à l'heure, la rythmique, le mouvement, l'autre chose que la communication.
Exactement, en fait, il n'y a rien à comprendre dans le roman. D'abord, il y a très peu d'intrigue, hein, c'est vraiment très limité, il y a quelques relations entre les personnages, mais on les met vite en place et on n'est pas désorienté en se demandant qui est quoi. Mais il y a peu à comprendre, et juste à effectivement se laisser porter et ressentir. On peut aussi, si on a peur d'entrer dans un roman qui n'est pas spécialement long en plus, commencer par certaines nouvelles de Virginia Woolf. Donc on aura un petit peu des échantillons de cela, et sans pour autant avoir le côté effrayant de se dire j'en ai pour des heures et des jours à lire un roman.
Vous dites il n'y a rien à comprendre, Gilles Philippe, mais en revanche il y a beaucoup à penser, il me semble, donc il y a à sentir, ça c'est sûr, et je crois qu'on l'a beaucoup dit. Moi j'ai été aussi très surprise de l'aspect quasi théorique, et je voudrais effrayer personne en disant ça fait partie de ma joie. C'est-à-dire qu'il y a des moments à proprement parler sur la conscience du temps, mais presque au sens métaphysique du terme. On va y venir, donc la vieillesse bien sûr, mais la place de la sexualité dans le couple en tant que tel, qu'est-ce que c'est, le mariage en tant que tel, mais aussi le moi, la profondeur de l'être et du rapport. Enfin, il me semble qu'il y a beaucoup à penser dans ce texte-là.
Oui, absolument, c'est pour ça que le texte a été autant commenté par les philosophes. Hein. Beaucoup de philosophes s'y sont intéressés, une sorte de théorie du temps. On a fait des liens, alors légitimes ou indus, j'ai pas d'avis là-dessus, avec Bergson, avec aussi toutes les théories avec Freud aussi, hein, puisqu'elle s'est intéressée à la psychanalyse, même si à mon avis c'est mineur dans le texte. Mais il y a deux grandes thématiques qui sont que les philosophes ont reconnues comme étant importantes et sur lesquelles elle aurait apporté aussi un éclairage finalement inédit par la représentation, qui est notre rapport au réel. À un moment où la phénoménologie se développe, hein, qu'est-ce que je suis en tant qu'être percevant, et puis le rapport au temps, qu'est-ce qui se maintient dans le temps, est-ce que je me maintiens moi-même dans le temps,
qu'est-ce que c'est qu'une journée, enfin je veux dire l'espace de cette journée-là que vit Mrs. Dalloway, qu'est-ce qu'un instant. Moi j'ai beaucoup pensé, j'ai pas eu le temps d'aller le chercher, mais à une phrase de Agua Viva de Clarice Lispector qui dit je voudrais me consacrer à l'instant, et j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui était
une
sorte de zoom, mais vraiment précis sur la seconde. Nathalie Léger.
On se souvient d'ailleurs que le premier titre de Mrs. Dalloway, c'était Les Heures. Et c'est vrai que se plonger dans ce livre, c'est quand même rester assez stupéfait par la musicalité, l'orchestration de l'ensemble, et ça, encore une fois, mais sa rythmicité. Là, cette fois-ci, c'est moins la question de la syntaxe, de la phrase, mais c'est ce gong de Big Ben, et c'est cette manière de... d'exposer, de surexposer, je pense qu'à ce que Nathalie Sarraute disait du gant retourné. Ben, dans Mrs. Dalloway, c'est là, on a l'impression que tout en décrivant...
Qu'est-ce qu'elle disait, Nathalie Sarraute, du gant retourné?
Le gant retourné est une manière de désigner ce qui était, non pas sa théorie, mais enfin, en tout cas, sa vue sur ce que devait faire l'écrivain. C'est-à-dire faire apparaître une sorte de mouvement indéfinissable, disait-elle, qui apparaissent aux limites de la conscience. C'est une des choses qui, dans l'ère du soupçon, guide Sarraute, qui est totalement dans la filiation, puis on sait combien c'était une lectrice de Dalloway, mais de Woolf. Mais c'est vrai que sous ce tissu de la ville qui s'étire dans le roman, il y a cette marque puissante, souvent pathétique, d'ailleurs, avec le destin de Warren Smith, de Septimus, qui est... il y a une sorte de profondeur qui est marquée par...
Et qui a souvent à voir avec l'angoisse, la terreur, la mort...
Et là, on voit quand même dans la manière qui est d'une puissance rare, quand même. Hein, dans Le bruit et la fureur de Faulkner, il sait décrire des états psychotiques. Mais là, on voit dans la manière dont elle parle de la souffrance de ce personnage, Septimus, donc qui vient des tranchées. On voit une expérience qui est celle d'états limites et qu'elle connaît, Virginia Woolf. Et la manière dont elle métamorphose l'effroi en langue, enfin je ne sais pas, dont elle arrive à le dire. Cette confiance qu'elle a dans les mots. Je pense aussi à ce qu'elle dit dans son journal. Enfin, ça n'a rien à voir, mais elle est capable de faire... Comment est-ce que le haddock et la saucisse, on ne peut les comprendre qu'en les écrivant.
J'adore.
Et elle pourrait dire la même chose de l'effroi au bord du suicide.
Elle prend l'exemple du chou chez Flaubert. Ah, oui. Et c'est vrai, c'est l'idée.
Mais d'ailleurs, là, il en est question des choux-fleurs préférés à l'humain.
Oui, absolument. Ouais.
Ah bah oui, songeuse au milieu des choux-fleurs, c'est tout début.
Exactement. On va écouter la voix de Christine Jardis pour ajouter une troisième voix à la vôtre, qui s'intéresse à l'idée du temps qui passe et à la vieillesse thématisée dans Mrs. Dalloway.
Elle se sent vieillir et elle a peur de la vieillesse et de la mort. Comme Virginia Woolf en avait peur. Mais d'autre part, elle en voit les avantages. Elle voit, comme Peter Walsh d'ailleurs, qui est encore une fois une forme d'alter ego, la vieillesse vous libère. On a renoncé au triomphe de la jeunesse. Et il y a cette ouverture à l'expérience et cette façon de goûter l'expérience dans toute sa saveur. Et comme le dit Peter Walsh, de la faire tourner lentement dans la lumière. Et voilà, si la vieillesse peut être ça, de faire tourner lentement son expérience dans la lumière, elle n'est pas si détestable que ça, et c'est ce qu'essaye de nous dire quand même Clarissa par moment.
Que penserait-il, se demanda-t-elle lors de son retour. Qu'elle avait vieilli? Le dirait-il? Ou verrait-elle lors de son retour qu'il pensait qu'elle avait vieilli? C'était vrai. Depuis sa maladie, ses cheveux avaient presque entièrement blanchi. Déposant sa broche sur la table, elle eut un brusque spasme, comme si pendant qu'elle se posait ses questions, les serres glacées en avaient profité pour assurer leur prise. Elle n'était pas vieille. Pas encore. Elle entamait tout juste sa 52e année. Des mois entiers en étaient encore intacts. Juin, juillet, août. Chacun d'eux restait quasiment entier, et comme pour recueillir la goutte qui tombe, Clarissa, se dirigeant vers la table de toilette, plongea au cœur même de l'instant. Le cloua sur place. L'instant de ce matin de juin sur lequel s'exerçait la pression de tous les autres matins. Voyant comme pour la première fois le miroir, la table de toilette, et tous les flacons, se rassemblant tout entière en un point. En se regardant dans le miroir, regardant le visage rose, délicat, de la femme qui devant, le soir même, devait donner une soirée, celle de Clarissa Dalloway, d'elle-même. Elle l'avait vue des milliers de fois, son visage est toujours avec cette même imperceptible contraction. Elle pinçait un peu les lèvres quand elle se regardait dans la glace. C'était pour rendre son visage plus effilé.
Un extrait de la traduction de Marie-Claire Pasquier de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, et juste avant, la voix de Christine Jordis qui parlait de la manière dont Mrs. Dalloway est à la fois une sorte de façon de penser la vieillesse comme ce que redouterait Woolf, et une forme de libération, puisqu'on peut faire scintiller à la lumière son expérience. Dans l'extrait, on voit bien aussi qu'il y a vraiment les deux mouvements du temps, être capable de clouer l'instant, clouer la seconde, et aussi avoir en mémoire les milliers de fois où elle a croisé son visage. Donc c'est vraiment à chaque fois les deux choses en même temps. Peut-être parler de cet aspect-là, Gilles-Philippe ?
Oui, c'est vraiment un aspect qui est majeur. J'aime beaucoup le passage, je ne le cache pas, je trouve que c'est un des plus beaux passages du livre. Ouais. Hein. Peut-être, si j'en avais choisi un, c'est celui-là que j'ai choisi. Il se prolonge un petit peu. Hein. C'est très très beau tout ce jeu sur le miroir.
Il se prolonge dans le miroir d'ailleurs.
Hein. Ouais. Exactement, dans le miroir. Et puis ça arrive à un moment, on est encore au début du roman où beaucoup de choses se nouent. Là, elle est dans l'attente, il y a un petit peu de déception. Mais c'est vrai qu'il y a, pour prendre un petit peu de recul par rapport à votre question, il y a une libération qu'apporte le temps chez Woolf. Le roman n'est pas triste, en fait. C'est vraiment un roman de la jouissance de l'instant. Et ce que nous apprend la vieillesse ou le vieillissement, elle est entre deux âges, comme on dirait parfois, ou elle se perçoit entre deux âges, de toute façon, c'est trop tard. Donc, c'est pas la peine d'aller de réécrire une vie, puisque de toute façon, on peut pas revenir en arrière. C'est notamment le cas par rapport à ce qui peut-être est un regret, c'est-à-dire ne pas avoir épousé Peter Walsh. Est-ce qu'elle a eu raison? Elle a épousé Richard Dalloway, son mari, qui est un homme politique conservateur, qui la néglige un petit peu, faut dire les choses comme elles sont, alors que Peter aurait été un interlocuteur plus intéressant pour elle, mais en même temps, elle aurait eu une vie avec quelqu'un qui était trop proche d'elle et qui aurait été possessif, etc. Mais de toute façon, c'est trop tard. Et il y a une sorte de...
Je suis complètement naïf parce que moi, je crois qu'à la fin, tout est encore possible.
Oui, on peut penser que tout est encore possible.
En tout cas, moi, à la fin, j'ai l'impression qu'il la voit. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui fait qu'il se demande qu'est-ce qui l'étreint. Peter Walsh, il est à la soirée. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment-là? Pourquoi son cœur se serre? Ah tiens, elle est là.
Il est toujours amoureux d'elle.
Il est clairement toujours amoureux d'elle, et elle de lui, aucun doute.
En même temps, il est amoureux d'une autre femme, il pleure, parce que justement, cette autre femme est mariée, il a une relation complexe. Mais bien sûr, ouais. Mais est-ce que tout est possible? J'y avais pas pensé.
Je propose. Nathalie Léger?
Je suis assez d'accord, tout est possible. ce moment que vous avez lu, il est très important parce que Clarissa est seule dans sa chambre. C'est bien ça. Hein. Et il y a la beauté de ce moment, c'est son retrait. Elle parle du petit lit. Il y a quelque chose de monacal, c'est-à-dire que au milieu de ce tourbillon de cette grande capitale,
elle se compare d'ailleurs à une nonne, je crois, à un enfant ou à une nonne, les deux.
Donc le retrait, le silence, au beau milieu de ce tourbillon qui est quand même le grand tourbillon de la grande bourgeoisie londonienne qui se célèbre elle-même. Il y a ce moment dans sa chambre de retrait et de réminiscence, comme ça, un moment très ralenti.
Mais est-ce que vous diriez, comme Gilles-Philippe, que ce n'est pas un roman triste, que ce n'est qu'un roman c'est un roman de la jouissance de l'instant?
C'est un roman qui tresse, c'est ça sa beauté, qui tresse l'extase et le discord en même temps. Et la jouissance, comme vous dites, et l'effroi de vivre avec Septimus. On sait bien que le roman est construit sur une double figure. Celle de Clarissa qui dit « Pourquoi est-ce que je fais une réception? Pourquoi est-ce que tout le monde m'en veut d'aimer les réceptions ?» Elle le dit, parce que c'est la vie, parce que faire une réception, c'est une offrande. Ce sont ces mots. Et puis, il y a Septimus qui ne peut plus vivre, qui ne peut plus être dans l'offrande de rien, ni même les recevoir, les accueillir. Donc, ça n'est ni ceci, c'est les deux tressés, c'est ça qui est là.
D'ailleurs, elle n'ignore pas Mrs. Dalloway, en même temps qu'elle aime la vie, qu'elle constate que les autres aiment la vie, en même temps qu'elle est capable de clouer l'instant, d'admirer la lumière, d'être attentive au son, de se dire, quand elle apprend que Peter Walsh est amoureux, il y a une page sublime où elle dit, il est amoureux, puis elle trouve plein de mais, puis elle revient, mais il est quand même amoureux, c'est quand même quelque chose, mais, ah oui, mais il est quand même amoureux, enfin, elle est capable de se dire tout ça à 52 ans. Elle n'ignore pas l'effroi elle-même. Ce n'est pas que Septimus qui est incapable de vivre, traumatisé par la guerre. Mrs. Dalloway elle-même est capable de voir le gouffre sous ses pieds.
L'écho du suicide de Septimus qui surgit à la fin le montre bien. Vous avez raison. C'est-à-dire que là, soudainement, nouveau tour de spirale dans Clarissa, finalement. C'est que sous la mondaine, celle qui parle de la réception comme d'un grand moment de vie, il y a une conscience et même une connaissance intime des raisons pour lesquelles Septimus s'est tué.
Et d'ailleurs, elle est très pragmatique puisqu'elle dit « Mais comment a-t-il fait ? Et pourquoi se tuer ? Comment a-t-il fait ?» C'est-à-dire qu'elle est très pratique sur cette question-là, Gilles Philippe.
Wolf dit quelque part qu'elle avait songé à la mort de Mrs. Dalloway. Le roman serait achevé par
sa
mort.
Mais son suicide ?
Peut-être soit une mort naturelle, soit un suicide, en fait.
Dans cette même journée ?
À la fin de la soirée, ce qui
en fait, aurait clos deux
hypothèses sur quel coup d'avenir avec Peter Walsh. Mais elle hésite un petit peu sur cette fin.
Et puis elle crée le second personnage, elle crée Septimus.
Elle crée Septimus, qui c'est pas la part de tragique, il y a ce système de contrepoint. Je craindrais qu'on en conclue que c'est le portrait d'une femme aliénée, à savoir...
Ah oui, non, pas du tout.
Voilà, pas du tout.
Hein. Ah oui.
Elle n'est pas en train de fuir la peur de la mort, etc., dans la vanité tant d'une vie mondaine que des petites choses, d'aller acheter des fleurs et de dire à la bonne où on va mettre les tables pour les canapés. Mais il y a... Je crois qu'il y a vraiment une vraie jouissance de l'instant qui n'est pas simplement une façon... Ce n'est pas du pur divertissement pascalien où je me réfugie dans le miroir et dans mes flacons de parfum pour oublier que la vie... elle mène au tombeau, etc.
Absolument pas, d'autant plus qu'elle est toujours consciente de ça.
Oui.
C'est-à-dire qu'elle est toujours consciente de ce qu'elle offre au monde et ce qu'elle est à l'intérieur. Elle sait le jeu qu'on joue.
Donc
du coup, elle n'est pas aliénée, puisqu'elle joue
ça. Et c'est vrai qu'il y a des lectures qui sont très sévères envers Clarissa Dalloway. Mais je trouve que c'est un roman de la consolation, en fait.
C'est-à-dire ?
Parce qu'on va mourir, mais que pour l'instant, on n'est pas mort. Il y a encore le plaisir des petites choses et le plaisir d'une lumière, le plaisir d'un bruit, le plaisir d'être à cet instant dans Londres, en juin, il fait beau. Qu'a-t-on besoin d'autre ?
La guerre est finie. Mais elle n'est pas finie pour tout le monde. Et donc voilà, il y a aussi quelque chose du roulis de tout cela. Puisqu'on évoque Septimus, on va juste terminer avec cet extrait. On est en pleine fête et il y a la mort qui survient.
Au moment où nous partions, mon mari a été appelé au téléphone. Une histoire très triste. Un jeune homme, c'est de cela que Sir William est en train de parler à Monsieur Dalloway, s'est tué. Il revenait de l'armée. « Oh !» pensa Clarissa au milieu de ma soirée. « La mort qui fait irruption !» pensa-t-elle. De quoi se mêlaient les bras de chaud ? De venir parler de mort à sa soirée ? Un jeune homme s'était tué et ils en parlaient à sa soirée. Les bras de chaud parlaient de la mort. Il s'était tué, mais comment ? Quand on lui parlait brusquement d'un accident, c'est toujours son corps qui vivait la chose en premier. Sa robe s'enflammait, tout son corps prenait feu. Il s'était jeté par la fenêtre. Le sol avait surgi à sa rencontre en un éclair. Les pointes rouillées l'avaient transpercé aveuglément, le meurtrissant. Il était resté là, avec un battement sourd qui cognait dans son crâne. Puis le noir l'avait suffoqué. C'était la vision qu'elle en avait, mais pourquoi avait-il fait cela ? Et les Bradshaw qui en parlaient à sa soirée.
Je reviens très vite après la lecture de ce passage de Mrs. Dalloway. Peut-être pour terminer sur le redoublement permanent, on a commencé par parler de la phrase et de la rythmique et de la structure de la phrase. Tout est redit deux fois, trois fois, quatre fois. Pourquoi et qu'est-ce que ça provoque à la lecture, Gilles Philippe?
Je pense que c'est un des aspects les plus emblématiques du flux de conscience dans la version wolfienne, à savoir que c'est comme ça que nous pensons. Enfin, nous ressassons beaucoup, les choses se sont formulées une première fois, une deuxième fois. On ne se dit pas à soi-même ou les choses en un instant, puis c'est réglé. En fait, elles nous hantent au moins quelques secondes, un petit peu à la Sarraute, le temps d'un instant, le temps d'un éclair, mais elles déplient ici l'éclair. À nouveau, je pense qu'il y a un vrai souci de représenter les choses au plus juste, et c'est aussi pour ça qu'on se reconnaît dans notre expérience intime dans la prose de Woolf.
Oui, c'est une pensée, c'est une émotion, c'est une émotion qui avance. Je crois, et on voit bien dans les journaux de travail de Virginia Woolf comment elle ne cesse de s'interroger sur le moyen de restituer cette émotion.
Le Book Club continue, j'espère qu'on vous a convaincu.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, le lundi, c'est lecture d'actu et avec vous en ce moment, Clémentine Mélois, puisque vous êtes en résidence au Book Club. Bonjour Clémentine.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui, vous nous parlez de mots.
Dans l'un des 72 décrets présidentiels signés par Donald Trump au cours du premier mois de son retour au pouvoir, le golfe du Mexique a été renommé Golfe d'Amérique. L'agence Associated Press, créée en 1846 et pilier de la presse aux États-Unis, a été bannie de la Maison-Blanche pour avoir refusé de tenir compte de cette décision dans ses articles. Une semaine plus tard, un mémorandum baptisé « L'abrogation woke » interdisait aux chercheurs américains dépendant des agences fédérales l'usage de 120 mots jugés idéologiquement biaisés, parmi lesquels les termes « femme », « inclusion », « écologie », « biodiversité » et « réchauffement climatique ». Déjà quelques jours avant l'échange d'une violence inouïe entre le président américain et son homologue ukrainien, Trump avait qualifié le président Volodymyr Zelensky, démocratiquement élu, de « dictateur ». J'aimerais pouvoir dire que cette entreprise de censure et de torsion du langage par un régime pour les besoins de son idéologie est d'une gravité sans précédent. Mais ce serait oublier tout un pan de notre histoire récente. De la violence des mots découle la violence politique. Et ce qui est terrifiant, c'est que justement, il y a des précédents et que cette méthode de manipulation des esprits par le biais du langage a déjà fait ses preuves en d'autres temps.
Et à quel exemple vous pensez précisément, Clémentine ?
J'ai eu envie de ressortir de ma bibliothèque la langue du Troisième Reich, du philologue allemand Victor Klemperer, paru pour la première fois en 1947. C'est un essai sur la manipulation du langage par la propagande nazie, édité à partir du journal que Klemperer a tenu entre 1919 et décembre 1945. Son titre original, Lingua Tertii Imperii, est abrégé sous le sigle LTI, en référence à l'usage surabondant que le régime nazi faisait des sigles, dans une mécanisation du langage qui suscitait la déshumanisation des êtres. La lecture de ce livre m'a d'ailleurs, depuis longtemps, rendu odieux tous les sigles et acronymes qu'on emploie aujourd'hui sans réfléchir. Il y en a partout, les entreprises et les administrations en raffolent.
Est-ce que vous voulez bien nous rappeler qui était Victor Klemperer ?
Alors, Klemperer était professeur d'université, philologue et spécialiste de la littérature française du XVIIIe siècle. À l'arrivée des nazis au pouvoir, il a une cinquantaine d'années. Persécuté par le régime en raison de ses origines juives, on lui interdit d'enseigner, puis de conduire, d'aller dans les parcs, on le chasse de sa maison, on l'assigne à résidence et on le contraint à travailler en usine. Klemperer a l'habitude de tenir un journal quotidien. Pendant la guerre, la poursuite de ce journal va devenir pour lui une question de survie et de résistance. Il va écrire à la sauvette, notant ses observations et les changements qui empoisonnent la langue sous l'influence de l'idéologie nazie. Cette étude, pour lui, était la seule forme d'activité intellectuelle dont les lois nazies n'avaient pas pu le priver.
Et alors, pourquoi est-ce qu'il est important, selon vous, de lire ou relire Victor Klemperer aujourd'hui ?
Le régime nazi imposait sa vision du monde par une langue pauvre mais omniprésente, par la censure et les éléments de langage qui étaient ensuite repris par tous. Et c'est cette même mécanique qui est encore à l'œuvre aujourd'hui, de façon évidente dans l'Amérique de Trump, mais pas seulement. Lire Klemperer, ce n'est pas se pencher sur un moment d'histoire aujourd'hui dépassé, l'histoire avec sa grande hache, comme écrivait Georges Perec. Lire Klemperer aujourd'hui, c'est faire le geste d'observer de façon critique l'incidence que peut avoir la langue en matière d'asservissement. La leçon que nous pourrions en tirer se trouve résumée dans la conclusion à la préface de la récente édition française de LTI, parue en 2023 chez Albin Michel, sous la plume de l'historien Johan Chapoutot. Sans une vigilance extrême, la langue du dominant en vient à tout envahir et à tout subjuguer. Dans toute menace, chez tout ennemi, aussi brutal soit-il, il y a une intelligence à l'œuvre que l'intelligence peut défaire.
Il faut donc espérer, si on en croit Chapoutot, que des penseurs ou penseuses se penchent à leur tour sur la langue de Donald Trump, par exemple.
Et c'est exactement ce que je pensais lorsque j'ai lu hier une chronique de l'éditorialiste Philippe Bernard dans le journal Le Monde. Dans ce texte, Philippe Bernard évoque les travaux du traducteur Olivier Manoni. Ce dernier, après avoir travaillé sur la langue hitlérienne en traduisant, éditant et commentant Mein Kampf, s'est penché sur le cas de Trump dans un livre paru en 2024 intitulé « Coulée brune, comment le fascisme inonde notre langue ». L'article cite un extrait de ce livre de Manoni qui me semble très éclairant pour comprendre ce qui se joue en ce moment. Une langue dont on massacre la syntaxe, la grammaire et l'orthographe ne peut plus être un outil de réflexion rationnelle. Le langage chaotique d'Hitler dans Mein Kampf, celui de Trump, ne sont pas ou pas seulement le fruit de leur incapacité à formuler une pensée. Ce travail de démolition souterrain ronge le dialogue démocratique et nous prive de moyens d'expression et le fait en prétendant nous rendre notre liberté.
Merci infiniment Clémentine Mélois pour ces deux lectures d'actu. Au moins, je les recite, LTI de Victor Klemperer et le fameux livre d'Olivier Manoni que vous venez de citer. On les mettra sur la page franceculture.fr la semaine prochaine.
Merci Marie.
Sans transition. Le grand jeu des pages musicales termine toujours le Book Club. On propose à vous, auditrices et auditeurs, de repérer la musique dans les livres. C'est Odile, notre auditrice, qui a joué avec nous en nous envoyant un mail à lebookclub@radiofrance.com. Elle a choisi un extrait d'un livre de Déborah Lévy qui s'appelle « État des lieux » qui est apparu en 2021. Ça me paraît bizarre, au sous-sol. Il me semble que c'est un peu plus tard. Bref, en tout cas, c'est traduit par Céline Leroy. Je me suis rendue au nord du Louvre en quête d'un stylo-plume ancien pour l'anniversaire de mon amie berlinoise. Et puis j'ai déambulé jusqu'au bon marché où j'ai trouvé un flacon d'encre appelé Caroub de Chypre. Sur le chemin du retour, j'ai aussi acheté une boîte des meilleurs marrons glacés ainsi qu'un savon en forme de cigale. Cette nuit-là, pendant que la scie électrique ronronnait dans l'appartement du Sou et qu'un groupe de touristes chantait « We all live in a yellow submarine », sur les marches du Sacré-Cœur, j'ai passé un long moment à fabriquer une carte pour mon ami dans mon nid vide. Il s'agissait du plan de métro dans lequel avaient été enveloppées les premières roses étranges que j'avais achetées pour mon nouvel appartement et sur lequel j'avais collé des pétales séchés. Au feutre noir, j'ai ajouté une nouvelle station qui portait son nom. Oui, elle n'avait ni pont, ni plaque, ni statue en son honneur, mais elle avait un arrêt de métro à elle toute seule. Par un heureux hasard, les pétales de rose me rappelaient le poème imagiste d'Ezra Pound dans une station de métro. J'ai recopié les vers de Pound au dos du plan et j'ai daté la carte au jour de son anniversaire. J'ai emballé le stylo plume, l'encre, les marrons glacés et le savon cigale séparément dans du papier de soie. J'ai ficelé les paquets avec du ruban d'un orange flamboyant. J'ai mis tous ces cadeaux dans un sac en plastique avec la carte plan de métro et j'ai préparé mon sac de voyage.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine.
Gilles Philippe et Nathalie Léger, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour évoquer Mrs. Dalloway de Virginia Woolf à l'occasion à la fois des 100 ans de la parution du texte, mais aussi de son édition chez Pléiade Gallimard. Au son aujourd'hui, c'était Grégory Wallon, à la réalisation Vivien Demeyer. Un vif merci à toute l'équipe du Book Club.